Première Pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Écopolis sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Première Pierre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vera Matovic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, conseillère élue à l'Ordre des architectes d'Île-de-France et vous êtes également présidente, donc à la tête de B Architecture. Alors, on va apprendre à vous découvrir, on va découvrir votre personnalité. Peut-être va-t-on commencer par votre métier. Alors, vous êtes architecte depuis toujours ?
Oui, tout à fait, depuis très longtemps en fait, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, puisque quand on est déjà tout petit, on nous demande qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard comme métier, et ça a été le seul métier qui m'a toujours animée et passionnée depuis toute petite.
Donc déjà enfant, vous vouliez faire ce métier ?
Tout à fait.
C'est assez rare, hein ?
Oh, je ne sais pas si c'est assez rare. En même temps, j'ai été baignée dans un environnement de construction, d'entrepreneuriat, du bâtiment. Donc, je pense que c'était tout à fait logique et inné pour moi de prendre cette voie.
Vos parents étaient architectes ?
Alors, non, pas du tout. Personne dans la famille ne l'est. Mon père était entrepreneur de bâtiment. Donc, il a d'abord été ouvrier sur les chantiers. Et puis après, il a monté son entreprise de bâtiment. Toujours en contact avec d'autres entrepreneurs du bâtiment, des architectes, beaucoup. À la maison, il y avait toujours un sujet d'architecture qui traînait en discussion. Donc vraiment, j'ai été baignée dans cet environnement. Je suis quasiment née sur un chantier. Et donc, j'ai toujours vécu l'acte de construire. En fait, ça a toujours été dans mon environnement. Donc, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, très tôt... vraiment très tôt, architecte. Et puis donc après, la vie a fait son histoire. J'ai suivi une formation très académique, puisque je suis rentrée en école d'architecture avec le bac en poche. Et donc j'ai suivi mes études d'architecture à Paris-Conflans, en UP4 à l'époque, et j'ai été diplômée en 2000. Et donc je me suis lancée dans le métier directement avec le diplôme des PLG.
Donc là, à ce moment-là, vous dites quoi ? Vous vous lancez dans la vie active ? Comment vous êtes
Ouais, alors c'est important de dire que dans cette formation académique que j'ai reçue, on a tous grandi avec cette idée que en sortant de l'école, on va aller faire ses armes en agence, on va apprendre ce qu'est le métier, puisque en fait pendant 6 années à l'école, on apprend le projet, le concept, qu'est-ce que ça veut dire l'architecture. On travaille beaucoup avec des grands noms d'architectes, donc. Dans cette lignée qui a été très beaux-arts, hein, on avait des trajectoires qui étaient presque tracées. On sort de l'école, on passe quelques années en agence et puis la finalité, c'était d'ouvrir la sienne. Donc j'ai grandi avec ce schéma-là en tête. Effectivement, en sortant de l'école, j'ai commencé à travailler en agence sans vraiment chercher en fait telle ou telle agence, mais j'avais tout simplement besoin de m'affronter à la réalité du terrain. Et donc, je suis rentrée en agence, j'ai commencé par dessiner, puis je suis très vite devenue chef de projet et vécu des aventures en agence qui étaient assez géniales. Par ailleurs, je garde vraiment des souvenirs fantastique de là où j'ai travaillé mes premières années. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce schéma-là ne me convenait pas, dans le sens où je ne voulais pas continuer à construire en fait des bâtiments neufs, que ce soit en région parisienne ou même sur Paris. J'avais en parallèle en fait toujours eu une activité dans la rénovation, la réhabilitation à petite échelle, notamment chez du particulier, sur des petites maisons, des appartements. Ce sont souvent les premières commandes en fait que les architectes ont facilement, mais qui sont très importantes parce que en fait elles définissent souvent la suite du parcours. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler, surtout à côté de l'agence, c'est là où j'ai découvert une vraie appétence.
Pour la rénovation.
Pour la rénovation.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ?
Alors, ce qui était intéressant, c'est que on intervient sur des bâtis qui sont existants, et en même temps, il y a une forte source de transformation d'imagination. Et j'ai trouvé que le cheminement du projet avec des clients très immédiats, ça veut dire où on peut discuter presque très régulièrement, en fait, et de voir cette transformation, de les accompagner, en fait, au travers de cette transformation et de leur livrer les clés à la fin du chantier en voyant toute leur satisfaction à pouvoir y vivre, de voir à quel point c'est important pour eux, ça renvoie une vraie satisfaction.
Il y a plus d'humain en fait dans la rénovation.
La connexion humaine est essentielle. Oui. Alors je ne sais pas s'il y a plus d'humain, mais en tout cas il y en a beaucoup.
Il y a plus d'interactions que dans la construction neuve.
Je pense que ça dépend vraiment des maîtres d'ouvrage, ça dépend des professionnels en fait qui se saisissent du projet. En tout cas, aujourd'hui par exemple, je ne travaille pas pour des particuliers et je mets un point d'honneur vraiment à ce qu'il y ait cette qualité humaine dans les échanges au travers du projet, car je considère que la réussite du projet passe par cet échange humain. Et donc, en fait, dans cette rénovation-réhabilitation, j'y ai très vite trouvé un intérêt et cette appétence qui est née, en fait, au travers ça, était assez en marge. Parce que si on se remet, c'était dans les années 2000, au démarrage, début 2000. Souvent, quand j'échangeais avec des copains archi qui étaient de ma promo ou de l'école... ils ne comprenaient pas trop ce que ça voulait dire réhabiliter, ou alors en tout cas, c'était plutôt considéré comme le parent pauvre de l'architecture. On n'y donnait pas beaucoup de place parce que, justement, dans cette lignée Beaux-Arts, formation académique, il fallait construire, fallait fabriquer des façades, faire un geste. Et donc, la réhabilitation, c'était un peu... l'antichambre, c'était un autre endroit d'expression, et donc tout le monde me regardait avec des grands yeux en me disant mais...
En fait, vous avez eu la prise de conscience avant tout le monde, enfin sur le climat, sur l'écologie, sur...
Je ne sais pas si c'est avant tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu cette prise de conscience que je ne souhaitais pas, et c'était plus intuitif, je pense, c'était vraiment presque d'ordre viscéral, c'est-à-dire que je ne concevais pas de pouvoir continuer à construire des mètres carrés, peu importe où sur le territoire, alors que du bâti existant, il y en a énormément, on ouvre ses yeux... il y en a partout, et en fait on a cette capacité à pouvoir donner plusieurs vies à un bâtiment, et ce qui m'intéressait finalement c'était de rentrer dans un champ de contraintes très fort, parce que la réhabilitation
c'est plus contraignant que de la construction,
on ne joue qu'avec des contraintes, c'est-à-dire que les sommes de contraintes sont vraiment importantes, les paramètres pour pouvoir intervenir, la compréhension de
vous
ce qui
existe.
Vous
avez besoin d'être challengé en fait au quotidien?
Oui, je pense que de toute façon, l'architecture me challenge. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un me challenge à proprement parler, mais je pense que l'architecture en elle-même, la matière en fait, me challenge. Ouais.
Alors, vous avez rejoint l'agence B Architecture il y a 20 ans, et vous l'avez reprise il y a 10 ans. Comment ça s'est passé? Est-ce que pour vous, c'était une évidence? Est-ce que c'était logique?
Ouais, c'est une question très intéressante parce que je fais souvent un parallèle avec ce que je fais sur les projets. Quand je suis rentrée en fait à l'agence, l'agence travaillait déjà en réhabilitation, mais pas que. Et justement, je l'ai rejoint pour travailler sur des projets en réhabilitation, sur des concours, l'un des premiers concours publics qu'on avait remporté à l'agence, puisque c'était la réhabilitation du ministère de la Santé en 2004. Quand je suis rentrée à l'agence, c'était vraiment pour travailler. Là, au bout de quelques 2, 3, 4 ans de pratique, je savais que je voulais rejoindre une agence qui travaille en réhabilitation. Et donc, je ne ciblais que les projets qui rentraient à l'agence en réhabilitation, puisque c'était vraiment ça qui m'animait. Et donc, j'y ai travaillé pendant quelques années. Et toujours issue de ce même mouvement de l'école d'archi, où à un moment, il faut créer son agence pour exister aussi dans l'environnement. Pour moi, c'était une évidence que j'allais créer mon agence. Et à ce moment-là, donc au moment où j'étais prête à le faire, le patron de l'agence me disait « Mais je vais partir à la retraite dans quelques années. Cette agence existe. Reprends-la. Ce serait dommage de partir de zéro. » Et je n'avais jamais imaginé, en fait, ce cas de figure. On ne parlait pas à l'époque. C'était en 2005, 6, 7, on ne parlait pas du tout de reprise d'agence. Ça n'existait pas. On n'avait pas connu, en tout cas dans l'environnement parisien, une agence d'architecture qui a été reprise. Souvent, elle est reprise de père en fils, mais vraiment rachetée, transmise pour qu'elle puisse perdurer jamais. Donc, on a inventé un peu le schéma de reprise. Donc, j'ai quand même mis quelques années à réfléchir, à me tester aussi en tant qu'associé d'abord à l'agence, et puis j'ai vu que la mayonnaise prenait, comme on dit, et à ce moment-là, donc j'ai décidé de la reprendre, et très tôt dans la reprise, donc en 2010-2012, j'avais souhaité donner un virage exclusif sur des projets en réhabilitation. Ça a été un tournant important, même pour moi, à titre personnel, parce que choisir, c'est renoncer. Et donc,
vous avez du mal à renoncer ?
Oui, en tant qu'architecte, en fait, chaque projet est une nouvelle histoire. C'est un prétexte pour pouvoir raconter une histoire et créer des liens avec des personnes. Donc, dire qu'on n'y va pas, c'est renoncer aussi à cette dimension-là. Mais pour moi, c'était essentiel de le faire parce que là, je me retrouvais à la tête de l'agence, à la diriger, et donc je ne pouvais plus regarder autour de moi et dire « mais comment peut-on encore construire ?» Là, il fallait que je m'y mette et que vraiment je me dise « est-ce que c'est possible ?» Et donc, je me suis donné les moyens pour le faire. Alors, ça a été une stratégie à long terme aussi, une vision à long terme. Je pense que c'est important en entreprise d'avoir cette vision à long terme. C'est à ce moment-là où je me suis dit, on y va. On ne prendra que des projets en réhabilitation.
Est-ce que ça a été dur de trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle ?
Oui.
J'imagine que quand on passe présidente, on passe beaucoup plus de temps au travail. On est peut-être, on travaille peut-être pas plus que 5 jours sur 7. Parfois, c'est 7 sur 7.
Ouais, ouais.
Comment on coupe ? Comment vous avez réussi ? Enfin, est-ce que vous avez trouvé l'équilibre ? Et comment
Alors, l'équilibre, je pense que je l'ai trouvé aussi assez tard dans ma vie privée. J'ai rencontré mon mari aujourd'hui il y a une dizaine d'années et je dois dire que je n'aurais pas pu faire cette évolution et cette ascension et cette reprise d'agence s'il n'avait pas été là aussi pour gérer notre quotidien, être présent avec notre fille, parce que ça pour moi c'était très important. Donc c'est sûr que le moment où on s'est lancé dans l'aventure de faire un enfant, bon, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour, j'avais un ventre énorme, mais j'allais quand même sur les chantiers, sur les rendez-vous. Et puis à un moment, je me suis dit, OK, c'est le moment, il faut que je m'arrête. Mais je me suis arrêtée très peu de temps. Et en fait, là aussi, il y avait une forme quelque part de renoncement d'un certain pan de ma vie, de ne pas pouvoir être présente comme j'aimerais l'être. Mais j'ai fait très rapidement en fait le choix de dire... je choisis d'être présente de manière qualitative puisque je ne peux pas quantitativement offrir beaucoup de temps en fait en famille. Et donc le moment où en tout cas on est ensemble, on le fait de manière qualitative. Mais oui, j'ai toujours dans ma tête un petit coin et un endroit où je me dis est-ce que j'aurais pas dû passer plus de temps. Alors après, on va pas vivre avec des regrets parce que je trouve que l'aventure est absolument magnifique et c'est justement parce que mon conjoint, comme on dit, assure que moi j'ai pu par ailleurs vraiment aller développer en fait toute cette ambition qui est en moi.
Oui. Est-ce que votre fille vous accompagne sur les chantiers ?
Alors oui, elle a beaucoup de curiosité. Elle me demande, bon maintenant elle a 10 ans, donc elle me demande déjà depuis quelques années à l'emmener voir, parce que j'en parle tout le temps en fait. Ce que vous dites, ça ne s'arrête pas le vendredi soir à 18h, c'est-à-dire que je rentre, c'est en moi, donc je vis avec ça. Donc souvent, je parle de tel chantier, de tel projet, et donc elle a tout le temps l'oreille qui traîne. Et donc elle m'a dit, là maman, j'aimerais bien que tu m'emmènes. Donc on a mis le casque, les bottes, c'était très drôle. D'ailleurs, je l'ai même emmenée dans une réunion client. Et elle a beaucoup aimé. En sortant de là, elle a dit « mais ton métier est absolument passionnant ». Alors bon, c'était de la crème parce qu'on allait voir des échantillons, des choses très concrètes. J'avais envie de lui dire aussi « bon, il y a un pan aussi du métier, de la profession qui n'est pas que la crème, justement. Oui. » Et que cette crème se savoure parce qu'il y a des moments difficiles aussi par ailleurs.
Donc votre fille a 10 ans, en fait, vous avez tout fait en même temps, la reprise de l'agence, le mariage, enfin l'enfance, et
tout est arrivé
en même temps.
Tardivement et en même temps. Donc ça, ce sont les moments dans la vie où on ne planifie pas.
Ouais.
Donc on planifie beaucoup de choses sur les projets et on est tout le temps en train de projeter et de planifier, mais dans la vie privée, c'est pas tout à fait la même.
Est-ce qu'il y a un livre qui voilà qui vous aimez, qui vous motive ou qui représente votre vie, auquel vous vous identifiez?
C'est une question qui est assez difficile parce que j'en vois tout de suite plusieurs et pas un seul. Alors c'est sûr que quand j'ai commencé étudiante en architecture à essayer justement de plonger dans l'univers de l'écriture, puisque je pense que c'est un pan qui est très important dans notre métier, qui est souvent oublié et qui est essentiel en fait pour permettre de structurer ses idées, notamment quand on développe des concepts et des parties prises sur des projets. Je pense tout de suite aux villes invisibles d'Italo Calvino, parce que il y a une dimension très forte dans le rêve, dans cette côté créatif de fabriquer une ville qui n'existe pas et d'y aller quand même et d'y emmener tout le monde. Et donc je trouve qu'il y avait une puissance en fait dans les mots qui a tout de suite fait un écho très fort avec ma pratique en fait. Après, plus tardivement, j'avais pris beaucoup de plaisir à lire un livre de Renzo Piano, La désobéissance de l'architecte, qui montrait aussi qu'il ne fallait pas toujours être bon élève dans les réponses qu'on pouvait apporter et dans le regard que l'on se forge avec les années. Et puis, peut-être de manière plus structurante, celui-là, je l'avais même lu plusieurs fois. C'était le livre de Peter Rice sur les mémoires d'un ingénieur. Déjà pour les histoires et l'envergure des projets qu'il y évoque. Et puis, pour le côté aussi très rationnel. Je trouve qu'il y a un assemblage entre ces trois livres qui est assez intéressant, qui n'apporte pas du tout la même chose. Et donc, il y a une forme de complémentarité dans le Tetris que moi, en tout cas, je me fais du métier.
Vous avez évoqué le mot bon élève. Est-ce que vous vous voyez comme une bonne élève?
Alors, il faudrait d'abord définir ce que c'est bon élève. je ne sais pas trop comment répondre. Enfin, ça dépend vraiment de quelle partie on parle. Mais non, je ne pense pas.
Comment vous étiez petite? Est-ce que vous étiez...
Alors, j'étais très bonne élève.
Très bonne élève.
J'étais plutôt très bonne élève. J'adorais être à l'école. J'adorais répondre aux questions qu'on pouvait me poser. Et puis, le côté un peu... je veux avoir une très bonne note. Pendant des années, j'ai toujours voulu être première, deuxième, troisième de ma classe. Quoi. C'était pas possible. J'aimais déjà cet esprit de compétition. Ouais. Je pense que ça, j'ai toujours grandi avec ça, sûrement aussi de par mon environnement familial. On aimait se challenger et cette compétition était toujours là. Donc, en ce sens, oui.
À la maison, vous voulez dire?
Ouais, à la maison, de par aussi le parcours familial, puisque en fait, mon père a quitté l'ex-Yougoslavie dans les années 50 hein, pour fuir le communisme, parce qu'il n'imaginait pas qu'on puisse lui dire comment il fallait vivre. Donc, une forme aussi de liberté très forte. S'il y a quelque chose qu'il m'a légué, qu'il m'a appris, c'est bien ça. C'est d'être libre. Et donc, il a traversé la mer Adriatique pour venir trouver une vie meilleure en France. Donc, il a fallu qu'il se batte aussi pour se faire sa place dans la société. Donc, on est toujours dans une forme de combat, d'évolution, d'avancement. Donc, ça, je pense que j'ai été très tôt baignée aussi dans ça. Donc, je pense que je suis fabriquée comme ça. Donc, bonne élève, non. Mais par contre, j'essaye de trouver les réponses et de pouvoir aller chercher des choses, en fait, qui peuvent aussi remettre en question tout le temps les zones de confort dans lesquelles on se trouve. Parce que quelque part, l'ennui, la répétition, et c'était aussi pour ça que je ne voulais pas aller travailler dans la construction neuve, parce qu'il y avait ce côté un peu paradoxalement très répétitif, je n'en voulais pas. Donc j'avais besoin de cette liberté et en même temps de sortir de ce cadre ennuyeux, si je puis dire.
Là, vous parliez de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que vous y retournez de temps en temps ?
Ah oui, donc en l'occurrence, là, c'est le Monténégro. Je suis très attachée à cet endroit. J'y ai passé énormément de temps enfant, quasiment toutes mes vacances scolaires, enfin les grandes vacances, on allait là-bas, puisque l'avion n'était pas aussi démocratique qu'il est aujourd'hui. Donc on y allait une fois dans l'année, mais on y passait beaucoup de temps.
Vous avez encore de la famille sur place ?
Ouais. On parlait toujours le serbo-croate, donc à l'époque à la maison, donc ça c'était important. Et donc j'avais un lien très fort, j'ai toujours ce lien très fort avec mes racines, et qui est d'ailleurs une connexion avec la nature, puisque en fait c'était vraiment deux mondes presque en opposition, et ça c'est assez intéressant parce qu'entre le côté parisien, très urbain, presque civilisé, si je puis utiliser ce mot au sens étymologique, en comparaison avec le Monténégro qui est vraiment une pièce de nature entre des montagnes et la mer, avec aussi cette lutte de la nature pour qu'elle puisse exister. Et donc, en fait, quand je me retrouvais là-bas, je devenais moins civilisée, j'ai envie de dire, plus du tout urbaine, vraiment à vivre avec la saison, avec le temps, le soleil. La temporalité, la journée, elle dépendait beaucoup aussi du climat. Et donc, ce contact avec la nature a toujours été très fort en moi. Donc, j'ai besoin d'y retourner régulièrement parce que c'est un moment aussi d'apaisement,
vous coupez,
de
j'imagine.
Relâchement. Oui, je pense que c'est une manière de remettre, comme on dit, le compteur un peu à zéro, de pouvoir souffler un peu, de se reconnecter avec la nature. Donc moi, j'ai ce besoin-là assez fort. Quand j'étais étudiante, j'ai fait des voyages aussi plutôt dans des endroits naturels plutôt que dans des villes, parce que j'avais besoin d'aller voir aussi comment les gens y vivent et de pouvoir avoir ce regard sur ce que ça veut dire bâtir ou rebâtir plutôt, comment l'environnement agit sur les personnes. J'ai des souvenirs de voyages en Birmanie où, en fait, quand on se retrouve dans des villes, que ce soit sur des lacs avec des maisons sur pilotis ou dans des zones un peu plus désertiques, on se rend compte à quel point la vie est fragile, mais surtout à quel point l'homme est inventif. Et il va essayer non pas de lutter contre la nature, mais d'essayer plutôt de s'y fondre, de faire avec, pour que justement la vie soit possible. Et ça a été, je pense, quelque chose d'assez déclencheur, des moments déclencheurs dans ma compréhension aussi de ce que pourrait dire l'architecture, de cette définition en fait que je m'en fais. De vraiment considérer ces ressources, ce n'est pas un vain mot. Je pense qu'aujourd'hui, on l'utilise de manière très forte, prépondérante, et tant mieux, parce que je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience. Mais si on parle de ressources, c'est une force. Et effectivement, cette force qui est à disposition, on doit pouvoir ne pas l'abîmer, mais plutôt faire avec.
Justement, vous évoquiez les différents lieux que vous avez vus. Si vous deviez en choisir un pour vivre, où aimeriez-vous vivre, où vous rêveriez de vivre ?
Paris.
Paris. Même malgré sans tout. Travailler. Ouais. Imaginons, voilà, vous êtes à la retraite dans de nombreuses années, vous resteriez à Paris.
Je pense, ouais. Parce que je trouve que c'est une ville absolument incroyable. Déjà cette histoire, je pense que le fait que les bâtiments existent depuis longtemps donne une texture, une couleur en fait à la vie qui est complètement différente. J'avais pendant mes études, passé un an en Australie où j'avais pu voir des villes comme Sydney ou Canberra ou même dans le désert. Et je me suis rendu compte que la jeunesse de ce pays offrait énormément d'avantages, mais qu'il n'y avait pas ce lien avec l'histoire très forte. Et en revenant en fait d'Australie, je me suis dit, mais en fait, c'est évident que je veux vivre à Paris. Le fait d'aller voir des endroits qui ont beaucoup moins d'histoire, qui sont moins chargés au niveau du patrimoine, au niveau de ce que ça peut raconter, parce que les pierres parlent leurs différentes époques de construction, nous renvoient, nous, êtres humains, à cette frise un peu chronologique et nous permet de nous y situer. Donc déjà, pour la beauté de cette ville, mais aussi pour tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle signifie, et définitivement Paris.
Vous vivez dans Paris actuellement,
ouais.
Et oui, vous êtes
bien parisienne vraiment dans l'âme. Alors, quand j'étais plus jeune, adolescente, enfant, j'ai vécu en banlieue parisienne, donc en proche banlieue, mais donc je connais bien aussi cet environnement.
Vous avez l'expérience des deux, en tout cas.
Ouais. Et très vite, en fait, quand j'ai commencé mes études en archi, je me suis dit, je ne veux pas vivre en banlieue parce que j'y trouvais une forme d'inconfort, de... Alors, toutes les banlieues ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont vraiment très agréables, mais sur cette idée de l'étalement urbain, sur cette notion, encore une fois, de construction, souvent, en construisant vite, on ne construit pas très bien, et pourtant, c'est Renzo Piano, d'ailleurs, qui disait ça, quand un artiste fait une peinture et qu'elle n'est pas très belle ou qu'elle ne parle pas, on peut en faire un peu abstraction, on peut la mettre de côté. Pour un bâtiment, c'est pas possible. Il va être là, il va rester là. Les personnes vont y vivre. Et donc, au-delà du fait de dire que ce n'est pas un cadeau que l'on fait, mais c'est quelque chose qui dure en plus dans le temps. Donc oui, entre cette banlieue et la ville de Paris, j'ai très vite voulu la fuir pour justement être dans Paris pour tout ce que la ville pouvait offrir.
On parlait de votre agence tout à l'heure, donc depuis que vous êtes présidente, comment vous gérez vos équipes? Comment vous voyez en tant que manager? Voilà, j'imagine que ça n'a pas dû être évident de passer à la tête de cette agence. Comment vous avez appris à gérer les équipes?
Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une forme de mue, de transformation. Au moment où j'ai repris l'agence, j'y étais déjà, j'y travaillais déjà depuis une dizaine d'années, donc je la connaissais quand même relativement bien. Mais je voyais peut-être des choses qui pouvaient être des sources d'amélioration. Et donc là, encore une fois, pas d'excuses. Je voulais passer à l'acte. Et en fait, j'ai fait ce que je fais quand j'interviens sur des bâtiments. Je réhabilite, donc j'ai réhabilité l'agence. Alors, ça a pris du temps parce que j'ai voulu le faire vraiment à long terme pour essayer de transformer, d'avoir un outil qui va durer et qui va être pérenne et où les personnes effectivement peuvent s'y sentir bien aussi et où on intervient sur des bâtiments qui sont à chaque fois... Alors, ils sont tous incroyables, ils ont tous une dimension. J'ai toujours du mal à dire lequel des projets, mais ça, j'y tiens beaucoup aussi, de pouvoir travailler sur des projets, sur des bâtiments qui ont une force de transformation, même s'ils n'ont pas beaucoup d'histoire, même si on est dans de l'architecture plus ordinaire, comme des bâtiments qui peuvent dater des années 60 ou 80, on a souvent un potentiel de transformation assez fort. Alors, pour répondre à votre question, j'aime pas trop le terme de manager parce que ça nous renvoie peut-être à des images ou à des clichés. Moi, je reviendrai plutôt à cette question de ressources, puisque on en parlait tout à l'heure sur la ressource disponible dans la nature, à la ressource humaine. Je pense que c'est une même ressource. En fait, c'est exactement la même idée. C'est de se dire qu'est-ce qui est disponible, comment on assemble ces ressources au sein de l'agence pour pouvoir, avec chaque projet qui arrive, pouvoir constituer la meilleure équipe avec les meilleures compétences possibles pour pouvoir répondre à ce projet. En réhabilitation, chaque projet est unique. Pardon. Et du coup, chaque réponse est sur mesure. Et du coup, l'équipe doit l'être aussi. Donc à chaque fois, je rebats un peu les cartes systématiquement en me disant, est-ce qu'effectivement, tel architecte dans mon agence, est-ce que c'est lui qui va vraiment pouvoir apporter, s'exprimer et aussi y trouver du plaisir? Parce que je pense que Notre métier est une source de plaisir aussi très importante. Comment assembler en fait ces ressources? Et donc du coup, cet assemblage, il est vraiment lié au projet. Il n'est pas lié à une politique de management interne que j'ai définie. Alors bien sûr, on a des règles à l'agence, mais de bonne vie, c'est-à-dire que pour que chacun puisse vivre en communauté, on est 35 personnes, donc c'est sûr que ça ne s'improvise pas tous les jours. Donc, mais par contre, cet assemblage autour des projets me semble essentiel, et c'est plutôt en ce terme-là que je parle d'organisation d'agence. Vous allez dire que je suis habitée par Enzo Piano, mais je repense à lui parce qu'en fait, quand j'ai été il y a quelques années dans l'expo qu'il avait faite à Chaillot, il avait beaucoup parlé de la manière dont les équipes sont organisées, justement comment elles travaillent en interne. Et il avait utilisé le terme le ping-pong, qui avait eu une résonance chez moi. J'étais sortie de l'expo, je ne parlais que de ping-pong, c'est-à-dire le ping-pong autour du projet, comment une idée va naître, comment elle va grandir, comment on va la développer, comment on se renvoie la balle, justement, pour que cette idée puisse avancer aussi et faire son chemin. Donc, je reprendrai, mais ça ne vient pas de moi, hein, donc plutôt cette idée de ping-pong,
si mais je devais le besoin définir. De se challenger de ouais. Brainstormer ensemble.
Ouais, sûrement.
Pour
sûrement,
aller plus
parce
loin.
Que, oui, parce que je pense que dans notre métier, enfin, on est tous d'accord pour dire que être solitaire dans le métier, c'est très difficile et peut-être pas toujours la bonne voie. En tout cas, dans la pratique, dans la compréhension du métier, quand on intervient sur des projets d'envergure comme on le fait à l'agence, l'équipe. Est un vrai mot, c'est un guide en fait, et si l'équipe ne marche pas, les projets ne marchent pas. Donc je travaille plutôt dans l'idée de dire comment on fait pour que cette équipe puisse être la meilleure possible. Je ne vise pas la perfection parce que nous sommes des êtres humains, et je pense que ça c'est aussi très important de toujours le garder en tête. On n'est pas des machines, même si bien sûr la machine a fait sa place en agence et que c'est aussi une grande aide, mais la personne, l'architecte qui réfléchit, qui mûrit une idée, qui la fait avancer, ça c'est possible qu'en équipe, je pense.
Alors, il y a une chanson qui vous parle beaucoup, de Kate Jarrett.
Oui, c'est vrai. Alors, elle est assez intéressante. C'est un morceau qu'il a composé à Köln, au moment du concert qu'il a tenu donc là-bas. Elle est à peu près aussi vieille que moi. Il l'a faite en 1975. Et en fait, j'ai toujours une émotion quand j'écoute cette chanson, parce que je la relie très fortement à ce que je fais en fait, ou ce que je fais au quotidien en fait en tant qu'architecte, de pouvoir procurer une émotion à celui qui va venir regarder vivre dans le bâtiment qu'on aura transformé, ou même la place urbainement que le bâtiment aura dans la ville. Donc je pense que le rythme de l'improvisation en fait de Kate Jarrett dans ce morceau est très facilement perceptible aussi en architecture.
On va l'écouter un petit peu. Est-ce que vous l'écoutez souvent ?
Souvent non, mais régulièrement, j'ai envie de dire. Je l'écoute pas une fois par jour, non. Mais le moment où peut-être je cherche une forme d'apaisement ou de concentration ou de réflexion, cette chanson m'aide beaucoup.
Et c'est à quel moment, par exemple ? C'est le soir, plutôt dans la voiture, dans...
Non, c'est plutôt, par exemple, quand je réfléchis, ça peut être le week-end, quand j'emmène un bout de réflexion avec moi sur un projet, quand j'ai besoin de mûrir plutôt une idée, quand j'ai besoin d'y voir plus clair. Et ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être en journée, sur 10 minutes, je me déconnecte, je me l'écoute sur un écouteur, ou le week-end avec les enceintes. Là, dans ces cas-là, tout le monde est obligé d'écouter avec moi à la maison. C'est assez variable le moment où j'ai besoin de l'écouter.
Et vous écoutez beaucoup de musique de manière générale ?
Alors, pas autant que j'aimerais. parce que manque de temps aussi, mais quand même un peu régulièrement, ouais.
Vera, on va bientôt se quitter. Avant, j'aimerais connaître votre vision de l'architecte de demain, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est dans l'air du temps, avec notamment ChatGPT. Beaucoup de métiers sont concernés, hein, parce que cette intelligence artificielle peut aider beaucoup de métiers. Bon, certains Français ont même peur, en fait, que leur métier soit remplacé par cette intelligence artificielle. Est-ce que, alors évidemment, l'architecte ne pourra jamais être remplacé par l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça pourrait apporter une aide, un soutien au quotidien? Comment vous voyez, du coup, l'architecte, comment vous imaginez cet architecte de demain?
Alors, l'architecte de demain, je ne le vois pas forcément à travers le prisme pour répondre sur l'intelligence artificielle, sur ce prisme-là. Mais je vois plutôt l'IA comme une source, en fait, qui pourrait effectivement nous aider peut-être à aller plus loin sur certains sujets, notamment dans l'innovation, dans la recherche. Je pense que c'est une source qui fera partie de notre quotidien. Elle commence déjà à en faire partie. Et je ne suis pas de ceux qui repousse en fait cette évolution de manière drastique en disant non, je n'en veux pas. Donc je ne suis pas radicale sur ce sujet-là. Je suis plutôt intriguée, intéressée de voir qu'est-ce que ça peut donner, en quoi ça peut nous être utile. Et je pense que cette utilité en fait est extrêmement présente et de manière quotidienne, en tout cas dans mon métier. On est une profession réglementée, hein, il faut quand même le rappeler. Et donc, elle est d'intérêt public, c'est-à-dire que l'architecture est présente partout autour de nous. Donc, si elle peut, de manière utile, apporter une aide quelconque, je pense qu'il faut se saisir de l'IA. Maintenant, sur la question plutôt de comment je vois le métier d'architecte pour les années à venir, donc, pas à travers l'IA de manière centrale, mais plutôt trouver un appui sur ces éléments-là. Mais je pense que si on m'avait posé la question il y a 10 ans, je pense que je n'aurais pas dit, effectivement, c'est très difficile de prévoir, mais je n'aurais pas pu dire où on en serait aujourd'hui. Quand je vois l'évolution, quand je vois le travail qui a été fait sur la réhabilitation, sur cette prise de conscience, notamment ces dernières années, je me régale, je me réjouis de cette situation. Là où il y a 20 ans, on en parlait. Alors c'est sûr que la réhabilitation d'il y a 20 ans, pardon, ce n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et là aussi, je m'en réjouis. On arrête de démolir parce que le bâtiment n'est pas tout à fait comme on l'imaginait. Non, on fait avec ce qui est là, et en ça, ça a énormément évolué. Je n'aurais pas parié il y a 10 ans qu'on aurait fait ce chemin-là. Donc dire là où on sera dans les années à venir, le fait qu'on ne sache pas, il faut aussi accepter qu'on n'a pas une boule de cristal et qu'on n'est pas devin. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, architectes, on a une capacité d'adaptation, une capacité aussi de pouvoir être catalyseur en fait de ce qui se passe dans la société. Donc je fais absolument confiance à mes confrères et mes consoeurs, à tout l'architecture de manière générale, pour dire qu'en fait on saura trouver des formes d'adaptation. On a cette capacité de pouvoir rebondir, de pouvoir tisser et aller encore plus loin avec justement les problématiques qu'on va rencontrer dans les années à venir, parce qu'il y en aura énormément, ça c'est sûr. On n'est jamais dans une période tranquille, et donc il va continuer de falloir innover. Ça, je pense que c'est absolument essentiel à tous les niveaux, et le côté pluridisciplinaire, on est souvent et de plus en plus, ça aussi je pense que c'est une grande évolution dans notre métier qu'on a pu voir ces dernières années, et je pense qu'on continuera encore dans ce sens, de pouvoir rassembler des corps de métiers qui a priori n'ont rien à voir avec l'acte de rebâtir, de rénover, mais qui en fait trouve un carrefour très intéressant dans d'autres matières. Et je pense que cette pluridisciplinarité est vraiment le socle, la base de réflexion, en tout cas chez nous architectes.
Eh bien, merci infiniment Vera Matovic pour cette belle émission.
Merci beaucoup.
Première Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.